VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal République démocratique du Congo. En cette journée de la presse, Journalistes en danger, une organisation congolaise de défense de la presse, a réclamé ce vendredi la réouverture des enquêtes sur les meurtres d'au moins 14 journalistes sous la présidence de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila. Objectif de la requête, faire en sorte que les principaux suspects répondent de leurs actes, écrit l'ONG dans un communiqué. Selon Journalistes en danger, le long règne de Joseph Kabila a été marqué par des fermetures de médias, des brimades, des attaques et violences allant parfois jusqu'aux assassinats de journalistes. La réaction de l'ancien porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende, proche de l'ex-président Kabila, là où la justice a déjà tranché, qu'est-ce que M. Kabila a à voir dans ses affaires ? C'est une confusion de genre, a souligné M. Mende. Joseph Kabila est resté au pouvoir de 2001 à 2018 et a été remplacé par Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Et toujours en RDC, le commissaire général chargé de la police judiciaire a convoqué l'opposant Martin Fayoulou pour lundi prochain. D'après la convocation, M. Fayoulou est invité en vue de fournir des renseignements utiles. Dans une lettre datée de lundi dernier, le procureur général près de la Cour de cassation, Flory Kabangé, a fait référence à une plainte déposée contre Martin Fayoulou, l'accusant notamment d'incitation à la haine tribale. M. Kabangé a demandé au commissaire général de la police judiciaire d'ouvrir une enquête et de lui remettre ensuite un rapport. L'opposant Fayoulou continue de revendiquer la victoire aux dernières présidentielles. Et il a exhorté le président Tshisekedi à démissionner lors d'un discours dimanche dernier à Kinshasa devant des milliers de ses supporters. Poursuite du mouvement de contestation au Soudan, le procureur général du Soudan, Al-Walid Sayed Ahmed, a ordonné l'interrogatoire de l'ex-président Omar al-Béchir en vertu des lois sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Par ailleurs, une foule immense s'est réunie jeudi à Khartoum pour une marche d'un million de personnes en vue de réclamer le transfert du pouvoir aux civils. Les précisions d'Irénée Herman Ungbo.
Les ponts et les rues menant au complexe militaire situé dans le centre de Khartoum étaient noirs de monde. Dans une ambiance festive, des chants révolutionnaires résonnent à travers des enceintes sur le lieu du sitting où campent depuis le 6 avril des milliers de Soudanais. « Que tu chutes ou non, nous resterons », scandent les contestataires en référence au conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar al-Béchir. Les deux camps se sont mis d'accord pour établir un conseil conjoint, appelé aussi conseil souverain pour remplacer le conseil militaire, mais les négociations échoppent sur le nombre de membres et sa composition. Chaque parti insistant pour être majoritaire dans cet organe. L'Alliance pour la liberté et le changement qui regroupe les principales formations de la protestation a présenté jeudi au Conseil militaire un document proposant d'établir une administration civile avec des organes exécutifs, législatifs et judiciaires. Sati El Hadj, un des chefs du mouvement, a déclaré que l'Alliance voulait une réponse à sa demande dans les 72 heures.
Mali, le massacre fin mars de près de 160 habitants du village Peul, au Gossagou, dans le centre du pays, a été une attaque planifiée, organisée et coordonnée qui pourrait être qualifiée de crime contre l'humanité. C'est ce qu'a estimé jeudi la mission onusienne au Mali, la MINUSMA. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le 23 mars, au moins 157 membres de la communauté Peul de Gossagou, dont des femmes et des enfants, ont été tués par un groupe composé d'au moins une centaine d'hommes armés, identifiés comme des chasseurs d'onceaux traditionnels. Ils étaient accompagnés par des dizaines d'hommes en tenue militaire. Ce sont eux qui ont mené une enquête planifiée, organisée et coordonnée, selon les conclusions préliminaires publiées ce jeudi par la mission d'enquête spéciale de l'aménagement. L'aménagement avait dépêché une mission d'enquête à Ogossagou du 25 au 29 mars dernier après cette tuerie, la plus grave qu'ait connue le Mali depuis 2012. L'attaque d'Ogossagou s'inscrit dans un contexte de nombreuses autres attaques similaires par des groupes de chasseurs traditionnels à l'encontre des populations Peul, selon l'aménagement. Ainsi, les atteintes aux droits de l'homme documentées à Ogossagou, prises dans leur contexte, pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité s'il est démontré que cette attaque s'inscrivait dans un contexte d'une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. Selon les rapports, les enquêteurs ont pu localiser et confirmer l'existence d'au moins 3 fosses communes contenant au moins 40 corps dans chacune des 2 premières et 70 corps dans la 3e. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Afrique de l'Ouest toujours, la chancelière allemande Angela Merkel poursuit sa mini-tournée au Sahel à son programme ce vendredi, le Mali. Madame Merkel était hier au Niger où elle a souligné l'importance de la coopération avec Niamey pour lutter contre l'immigration illégale, dont le Niger est une plaque tournante. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a noté à ce propos que le flux de migrants passant par le Niger a énormément baissé ces derniers temps. Il est tombé à entre 5 000 et 10 000 par an, entre 150 000 par an avant les mesures prises par les autorités nigériennes pour décourager l'immigration illégale. Les entretiens entre Angela Merkel et le chef de l'État nigérien ont également porté sur la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. L'Afrique du Sud tient le 8 mai des élections législatives. Le parti qui obtiendra la majorité choisira le futur président du pays. Ces dernières années, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, a perdu du terrain. Après de nombreux scandales de corruption éclaboussant l'un de ses successeurs, l'ancien président Jacob Zuma. Est-ce que ces scandales à répétition auront de l'effet sur le scrutin? Idriss Fala joint à ce sujet à Cape Town Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
Absolument, ces scandales auront un effet, comme ils avaient déjà eu un effet en 2016 lors des élections municipales où l'ANC avait perdu le pourcentage de support. 5 ans plus tôt, l'ANC avait obtenu 62% dans les élections municipales, mais en 2016, ils étaient à 53%. Il est clairement établi que c'est à cause justement de tous ces problèmes de corruption qui caractérisaient le pouvoir de Jacob Zuma.
Même l'ANC ne risque pas de perdre aux législatives parce que le vote, il est plutôt ethnique ou noir, si j'ose dire.
En fait, d'après les projections qui sont faites, il est clair que l'ANC va gagner. Il n'y a pas crainte qu'il perde. Mais la question qu'on se pose, c'est à quel pourcentage ils vont obtenir quelle portion? Est-ce que ça sera encore une baisse? Les gens s'attendent effectivement qu'il y ait une baisse, pas nécessairement en faveur de l'Alliance démocratique. Certainement, ils peuvent en bénéficier, mais aussi de IFF, donc il s'appelle le combattant pour la liberté économique.
De Julius Malema, le bouillant Julius Malema.
Voilà. En fait, c'est lui qui est vraiment le vrai compétiteur parce que lui et l'ANC partagent l'électorat noir. Vous parliez du vote ethnique. Effectivement, à ce niveau-là, Malema peut réduire la marge de l'ANC. Mais d'autre part, le deuxième grand parti d'opposition, donc l'Alliance démocratique, a aussi eu des problèmes assez sérieux avec son plus grand leader, si je peux parler en termes des races métisses. Celle-là a été, elle a traîné le parti au tribunal à cause de certains désagréments entre eux. Et ça a fait beaucoup de bruit et elle a même quitté le parti pour former un autre parti qui s'appelle Good Party. Donc si je dois traduire aussi, c'est Bon Parti. Ça aussi, ça va affecter le deuxième plus grand parti. Et tout cela rend les élections de la semaine prochaine très complexes à prédire.
Mais malgré tout, on est sûr que M. Cyril Ramaphosa, à l'arrivée, va redevenir président de l'Afrique du Sud.
Absolument. Il sera président de l'Afrique du Sud. L'ANC a encore beaucoup de popularité. Vous l'avez bien dit, dans les milieux les plus pauvres, il y a le système très socialiste qu'ils ont mis en place où on donne des subsides aux plus pauvres, les femmes enceintes jusqu'à un certain âge. On essaie de construire des maisons pour les plus pauvres, les plus démunis. Et tout ça, ça aura un impact. Mais n'oubliez pas aussi le poids de l'apartheid. L'apartheid, bien que c'est 25 ans après les premières élections, les gens ont encore en mémoire le système d'apartheid. Et comme l'ANC, c'est le parti qui les a libérés de l'apartheid, il y a encore une grande sympathie vis-à-vis de ce parti, malgré tout ce qu'il y a comme bévue, particulièrement sous Zuma.
Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique. Et pour terminer, l'actualité aux États-Unis, le président américain Donald Trump a appelé à se battre avec force contre l'antisémitisme. Moins d'une semaine après la fusillade qui a fait un mort dans une synagogue près de San Diego en Californie. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Mr. Flavor.